CIBL, au cœur de la culture.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101.
Bonjour, nous sommes le 22 septembre 2025. Mon nom est Adèle Rosamat et je vous souhaite la bienvenue aux Aurores Montréal. Je suis aujourd'hui accompagnée de Thaïs Plante-Blas. Bonjour Thaïs.
Bonjour.
Et à la mise en onde, c'est Maurice Bolduc qui est avec nous aujourd'hui. Donc il fait 15 degrés présentement à Montréal. On annonce un peu de pluie en après-midi, mais on peut espérer peut-être ne pas en avoir. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau programme qui propose de venir chercher votre réfrigérateur à la porte. On parle aussi du festival Phénoména et des Journées de la paix. Mais avant ça, quelques informations. Pour commencer, aujourd'hui marque la première journée de grève de la Société de transport de Montréal qui durera 2 semaines. Le service de bus et de métro sera assuré que durant les heures de pointe, les lundis, mercredis et vendredis, tandis que les mardis, jeudis, samedis et dimanches, l'horaire habituel sera maintenu. Face à l'impasse des négociations, la Société de transport de Montréal s'attend à une augmentation de la congestion routière. Des alternatives sont suggérées, comme le vélo personnel, les services Bixi et l'autopartage. Toujours du côté du transport, des camionneurs québécois ont prévu de ralentir la circulation lundi matin à Montréal, Québec, Trois-Rivières et Gatineau. Ils veulent dénoncer la présence de chauffeurs illégaux qu'ils jugent dangereux pour la sécurité routière. Selon le mouvement ACCAC, de plus en plus de conducteurs sans formation ni permis circulent sur les routes. La surveillance a également diminué car les contrôleurs routiers ont amoindri les interceptions. Les manifestants réclament des actions concrètes des autorités pour mettre fin à cette situation. En ce qui a trait à la santé publique, un rapport confidentiel de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, obtenu par Radio-Canada, révèle des lacunes importantes dans la gestion alimentaire de plusieurs centres d'hébergement de soins de longue durée québécois. Le rapport met en lumière des problèmes récurrents, comme les ruptures de stock, la pénurie de personnel et les équipements désuets. Ces failles entraînent des risques pour la sécurité et l'hygiène des résidents. Elles nuisent aussi à la qualité des repas. Le ministère de la Santé avait d'abord refusé de rendre public ce document. Il l'a finalement remis après plus d'un an de démarches auprès de la Commission d'accès à l'information. Du côté de Montréal, un incendie majeur a ravagé un immeuble résidentiel et commercial sur le plateau Mont-Royal tôt dimanche matin. Le feu s'est déclaré vers 4h50 à l'angle de l'avenue du Mont-Royal et de la rue Saint-André, nécessitant l'intervention de près de 150 pompiers. Une victime a été transportée à l'hôpital dans un état critique. 8 autres personnes des logements voisins ont dû être relogées par la Croix-Rouge en raison de dégâts causés par l'eau. Dans le secteur de l'éducation maintenant, l'Université de Montréal ouvrira un campus à Saint-Jérôme en 2026. Le but est de former des médecins et des pharmaciens directement dans les régions, dans l'espoir de les y retenir. Cette initiative vise à combler les pénuries de main-d'œuvre dans les Laurentides. La première cohorte de 24 étudiants en médecine débutera en 2026, suivie de 30 futurs pharmaciens en 2027. La délocalisation de la formation est une stratégie de plus en plus courante au Québec. Plus de 15 % des étudiants en médecine sont déjà formés en région pour répondre aux besoins locaux. Cette initiative fait suite au succès du campus en Mauricie. En matière de sport maintenant, gros week-end au Marathon Beneva de Montréal. Le Québécois Samuel Saint-Antoine s'est démarqué en montant sur la 3e marche du podium. Saint-Antoine, qui a franchi la ligne d'arrivée en 2h22 et 43 secondes, a été devancé seulement par 2 athlètes kenyans. Le marathon a été remporté par Jeffrey Burgeon, suivi de John Langa. D'autres athlètes locaux ont également brillé lors de l'événement, comme Charles Philibert Thibouteau, qui a remporté le 5 km. Les Québécoises Anne-Laure Ménard et Camille Matet-Bilodeau ont aussi accédé au podium du demi-marathon. Et on s'en va en musique maintenant avec le blues du réchauffement de Margaret Tracteur.
Je vais remonter dans le...
Nice.
Donc, c'était le blues du réchauffement de Margaret Tracteur. Thaïs, à toi maintenant.
Se débarrasser d'un vieux frigo est désormais plus facile. Après une première phase de déploiement réussie en juin dernier, GoRecycle offre d'aller le récupérer à votre porte pour les personnes vivant sur l'île de Montréal ou à Laval. Pour parler de ce nouveau programme, nous recevons Jules Foisy-Lapointe, le directeur général de GoRecycle. Monsieur Foisy-Lapointe, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, comment est née cette idée et pourquoi est-il important d'offrir cette solution gratuite et pratique aux résidents?
Bien, je vais commencer peut-être par présenter GoRecycle rapidement. On est l'organisme sans but lucratif responsable du recyclage d'appareils réfrigérants et climatisés pour tout le Québec. On a un partenariat avec Recyc Québec et les municipalités un peu partout au Québec. Donc, en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer que ces appareils-là qui contiennent des allocarbures sont bien traités et tous les allocarbures, les gaz soit isolants ou réfrigérants qui sont utilisés dans ces appareils-là sont capturés pour éviter qu'ils soient relâchés dans l'atmosphère et qu'ils affectent la couche d'ozone et qu'il y ait également un gaz à effet de serre. Donc, le défi qu'on a, c'est que c'est des gros appareils. On parlait des frigos, les congélateurs tombeaux, les celliers, les distributeurs d'eau, les déshumidificateurs, les airs climatisés également. C'est des appareils qui sont assez difficiles à déplacer. Donc, on avait une grosse demande de la part des gens de Montréal et de Laval pour un service de collecte à la porte, gratuit, qui leur permettrait en fait de participer là, à la bonne action environnementale.
Mmh. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces appareils ont un impact environnemental? À quel point c'est bon pour la planète?
Parfait, ben oui, absolument. Mais en fait, les appareils, les réfrigérants, les climatisés, ils ont à l'intérieur de l'appareil des conduits qui contiennent des gaz allocarbures, comme je disais. Donc, ces gaz-là, c'est des gaz qui sont des gaz à effet de serre. Donc, on parle toujours, quand on parle de gaz à effet de serre, d'équivalent en CO2, là, quand on parle d'impact environnemental en effet de serre. Chaque appareil qu'on a chez nous, on contient l'équivalent d'environ une tonne de gaz à effet de serre à l'intérieur de leur conduit et également à l'intérieur de leur surface isolante. Donc, par exemple, un frigo, c'est une grosse carcasse isolante. À l'intérieur de ça, il y a également des gaz qui sont vraiment dommageables. Donc, on parle d'environ une tonne de gaz à effet de serre équivalent par appareil qui sont recyclés de façon conforme par le programme GoRecycle.
Et pouvez-vous me redire quels types d'appareils sont admissibles à ce service de collecte?
Absolument. Donc, vraiment les frigos, donc tout ce qui est réfrigérateur, deux portes, trois portes, comme vous voulez, tout type de réfrigérateur, même les petits réfrigérateurs, congélateurs, celliers, distributeurs d'eau, air climatisé, de fenêtres ou portables, et également les déshumidificateurs qu'on oublie souvent, mais qui sont également contiennent également des allocarbures.
Et quelles sont les étapes simples que les citoyens doivent suivre pour en faire la demande?
Bien, c'est super simple. En fait, notre site web est assez bien fait. Donc, vous allez sur gorecycle.com pour commencer, pour trouver les solutions qui sont les plus proches de chez vous. Donc, vous rentrez votre code postal, d'en trouver un point de dépôt, et les services de collecte à la porte dans votre région vont être offerts. Et ça, c'est comme ça pour tout le Québec, d'ailleurs. Donc, et si vous êtes dans la région de Montréal, vous allez avoir l'option de regarder pour le service de collecte à la porte. Vous rentrez tout simplement le nombre d'appareils que vous voulez faire collecter et vous allez avoir différentes dates de disponibles dans les prochains mois pour être capable de planifier une collecte chez vous. L'appareil, par la suite, vous devez le sortir quand même de votre résidence. On ne rentre pas chez les gens, mais vous le laissez en bord de porte. Il doit être identifié au nom de GoRecycle et on va ramasser la journée même. Donc, il faut vraiment qu'on attende la bonne journée, la journée de collecte pour venir le sortir. Parce que si l'appareil est sorti avant, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va être ramassé par des ferrailleurs. Et là, l'appareil n'est pas nécessairement recyclé de façon conforme à la réglementation, souvent parce qu'ils n'ont juste tout simplement pas la technologie pour le faire. Et là, il va y avoir des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Donc, vraiment important, il faut respecter la procédure sur le site web et dans les différents courriels d'instructions qui sont envoyés suite à la demande de collecte. Mais c'est très simple, ça se fait en 5-6 minutes.
OK. Et comment les usagers de la phase d'essai ont apprécié le service?
Jusqu'à maintenant, on a un taux de succès de plus de... On regarde des étoiles, on met des étoiles sur notre système. Donc, on est près de 5 étoiles. Donc, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Donc, on a déjà plus de 1500 appareils qui ont été ramassés depuis juin. Et on continue là, d'ajouter des appareils chaque jour.
Est-ce que GoRecycle prévoit-il d'étendre ce service à d'autres villes du Québec?
Absolument. Bien, on fait déjà un service en partenariat avec des villes partout au Québec. Donc, on a 95 municipalités partenaires qui font déjà la collecte à la porte, soit par des collègues d'encombrants ou autres. On a également 250 détaillants au Québec qui offrent la collecte à domicile avec l'achat d'un appareil neuf. Mais on entend également ajouter des services complémentaires de la part de Gorossic, entre autres sur la rive sud de Montréal, probablement aussi vers Gatineau. Donc, on est en train de regarder différentes régions là, qu'on veut faire l'année prochaine et tranquillement d'autres régions pour lesquelles il y a beaucoup de demandes et une concentration de population importante, on va fort probablement considérer ces régions-là aussi.
Votre organisation est le seul organisme reconnu par Recyc Québec pour ce type de recyclage. Donc en plus de la collecte à la porte, vous avez déjà plus de 600 points de collecte au Québec. Et comment ces différentes initiatives s'inscrivent-elles dans la mission globale de GoRecyc?
Ben, en fait, ça fait vraiment partie de notre mission. Donc, c'est vraiment le mode d'opération pour qu'on réalise tous les jours notre mission, là, qui est vraiment de lutter contre les changements climatiques, mais également contre les déchets. Parce qu'il faut savoir que chacun des appareils qu'on ramasse dans les 600 points de dépôt partenaires et également dans le service de collecte à la porte, ben, ils vont être recyclés au Québec. Donc, ils vont être vraiment très, très contrôlés. Et également, les matières, donc au-delà des gaz, là, les matières vont être valorisées à plus de 95%. Donc, il y a très peu de pertes également de déchets là, qu'on va générer. La majorité de la matière, bien plus que la majorité de la matière, va être valorisée. Et ça, c'est absolument important.
Et quels sont les plus grands défis que GoRecyc a rencontrés lors de la mise en place de ce programme de collecte à domicile?
La première chose, c'est le respect des procédures. Donc, souvent, les gens ont malheureusement sorti leur appareil beaucoup plus tôt. Donc, par exemple, ils font la demande pour dans un mois, ils sortent tout de suite leur appareil. Mais là, c'est sûr que l'appareil est perdu. Malheureusement, quelqu'un va le voler. C'est évident. Puis, évidemment, le deuxième enjeu qu'on a, ben, et oui, malheureusement, il y a des ferrailleurs qui ramassent les appareils sur le bord de la rue. Ils disparaissent pas miraculeusement. Ils sont pas traités de façon conforme, de façon miraculeuse. Malheureusement, ces appareils-là vont être envoyés à la ferraille, vont être écrasés. Et là, les allocarbures qui sont contenus vont être tout simplement rejetés dans l'atmosphère, contrairement au système que nous, on utilise. Donc, le contrôle des ferrailleurs est un gros enjeu. Donc, vraiment, le meilleur moyen de pouvoir éviter ça, c'est juste de respecter la bonne procédure.
D'accord. Est-ce que si vous avez un message pour les auditeurs,
ben, en fait, pensez... Souvent, on se fait dire, bon, c'est quand même plus compliqué que juste abandonner son appareil sur le bord de la rue. Mais en fait, il faut se dire, vraiment, utiliser les services de GoRecyc, premièrement, c'est un des gestes environnementaux que vous pouvez faire le plus profitable pour l'environnement. Donc, une tonne de gaz à effet de serre, là, essayer d'éviter une tonne de gaz à effet de serre, il faut quand même faire pas mal de choses. On a sur notre site web, d'ailleurs, plusieurs références à différentes actions. C'est comme être végétarien, par exemple, pendant 4 ans. Prendre le transport en commun pendant 4 ans. Donc, c'est vraiment juste en faisant attention à un appareil, la porter au bon endroit, que ce soit à l'éco-centre ou en utilisant le service de collecte à la porte, bien, vous permettez vraiment d'avoir un impact, en fait, un gain significatif, bénéfice significatif pour l'environnement au Québec. C'est vraiment très important de faire attention à ces appareils-là.
Donc maintenant, au lieu de mettre vos appareils sur le bord de la rue, il faudrait faire notre demande sur GoRecyc.
Exactement. Allez voir notre site web gorecyc.com. Puis également, vous avez beaucoup d'informations sur le réemploi. Donc, quoi faire pour bien réparer votre appareil, utiliser des bons réparateurs, mais également des bons endroits où acheter des appareils de seconde main qui donnent des garanties légales avec leur appareil, qui s'assurent que les réparations sont bien faites. On a une quarantaine de magasins partout au Québec déjà qui sont partenaires de notre programme. Donc, une foule d'informations sur le site web de gorecyc.com. Je vous invite à y aller pour plus d'informations.
Donc, si j'ai bien compris, les appareils recyclés deviennent un second appareil... renouveau.
En fait, les appareils collectés peuvent soit être réemployés ou sinon, s'il n'y a pas de demande. Malheureusement, il n'y a pas une demande suffisante pour la quantité d'appareils qui sont en fin de vie au Québec. Donc, malheureusement, on est obligé d'en recycler. Ils vont être recyclés au Québec et ils seront valorisés de façon conforme à la réglementation.
Merci, Monsieur Foisy-Lapointe. Pour rappel, les résidents de l'île de Montréal et de Laval peuvent désormais faire recycler gratuitement leur appareil réfrigérant et de climatisation grâce au nouveau service de collecte à la porte de GoRecyc. Pour plus d'informations et pour soumettre une demande de collecte, visitez le site gorecyc.com/collecte.
Merci beaucoup.
Merci.
Je m'appelle Je. J'ai pas de nom. Mon parent me fera choisir quand je serai grand. J'ai 5 ans. Je vais à l'école. Souvent j'ai mal au cœur. Alors, j'y vais pas. Je regarde des films de Rambo sur mon sel avec ma vieille Corneille. Je l'aime, ma vieille Corneille. Le chien me mord les mollets. Mon parent me chicane, m'enferme dans sa cabane. Il a aussi mordu mon robot, mais il ne le fait plus. Le robot lui a cassé une dent. Il mange moins qu'avant. Il dort tout le temps, mon chien. Il dort tout le temps, mon chien.
Je m'appelle Je de Louise Forestier. Donc, en ce moment, il fait 15 degrés à Montréal, un peu nuageux, mais on peut s'attendre à ce que la température monte jusqu'à 22 degrés, donc un peu plus chaleureux déjà, avec un 30 % de pluie. Donc, une possibilité de, mais on peut toujours espérer que ça reste plus joli.
Tous les dimanches, 13h, jouez avec nous au bingo radio de CIBL. Il y a 3 500 $ en prix. Toujours en direct sur CIBL 101,5 FM et aussi sur Vidéotron 574, Bell 959 et CIBL 101.5.ca. Procurez-vous vos cartes du bingo dans un point de vente près de chez vous. La liste complète est sur CIBL1015.ca, onglet Bingo Radio. Merci de soutenir votre radio, la seule radio communautaire francophone de Montréal depuis 45 ans. C'est donc un rendez-vous dimanche 13h. Invitez vos amis et bonne chance. Bingo, bingo, bingo!
Plongé dans l'univers du rap québécois chaque lundi de 17h à 19h sur CIBL 101,5 FM avec On s'en rap. Découvrez les talents francophones qui façonnent la scène musicale actuelle. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. On s'en rap, c'est votre émission.
Les Échos du monde, c'est la nouvelle émission d'actualité internationale à CIBL. Chaque mercredi, écoutez Philémon Lafrenière-Prémont, Michael Demers et Maëlle Brunet décortiquer les événements de la semaine autour du globe. On se penche sur les inévitables, Ukraine, Gaza, États-Unis, France, oui, mais aussi sur des pays, des enjeux et des conflits laissés de côté par les grands médias. Ça se passe les mercredis de 19h à 20h et en rediffusion les lundis de 10h à 11h sur les ondes de CIBL.
« Parlons éducation, l'émission qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à l'éducation avec Patrick Pirard
et Bernard Dufour, tous les dimanches de 11h à midi, chronique, point de vue, entretien, c'est un rendez-vous.
La 14e édition du Festival Phénoména aura lieu du 1er au 24 octobre. Pour en parler, accueillons Dee Kim, la directrice artistique de ce festival. Cette 14e édition est un moment charnière, car c'est la dernière que vous dirigez. Merci d'être avec nous, Dee Kim.
Ça fait plaisir.
D'abord, pouvez-vous nous présenter qu'est-ce que le Festival Phénoména?
Ben, c'est un festival interdisciplinaire. On présente principalement des spectacles. On est vraiment en art vivant. Des performances, des cabarets, beaucoup de cabarets. Le célèbre cabaret Dada. Donc, on travaille avec vraiment des artistes très différents, éclectiques, inclassables. Donc, c'est une programmation particulièrement foisonnante cette année pour ma dernière édition. Le festival continue, là. Oui. Évidemment. J'ai trouvé ma relève. Donc, c'est une édition... Oui, c'est émouvant pour moi, là, après 14 ans. Là. Voilà, je voulais offrir quelque chose de vraiment incroyable là, au public.
Ben oui, on comprend ça, absolument. Et pour cette dernière édition, en fait, sous votre direction, le communiqué de presse parle d'une programmation plus interdisciplinaire et indisciplinée que jamais. Pouvez-vous nous dire comment ce thème est reflété ou se manifeste dans les différents spectacles?
Et on a, ça part du spectacle de Olivier de Sagazan, qui est un plasticien français très, très connu, qu'on présente à l'UZNC. Bon, malheureusement, c'est complet, mais je dis toujours aux gens, il y a des listes d'attente, vous pouvez vous présenter, il y a toujours des gens qui se présentent pas là, à la dernière minute, parce que c'est un artiste extraordinaire qu'on a présenté en 2016, en 2023 aussi. C'est vraiment une figure majeure de la performance, là. Donc, on a ce spectacle-là. Donc, ça va de très connu à Athéna, Lucie Abasamba, qui est une jeune chorégraphe, Asamba, pardon, qui est une jeune chorégraphe dont on présente le premier spectacle à la Sala Rossa. Donc, c'est vraiment très large. Alors, moi, j'aime bien mêler des gens, des artistes connus qui ont déjà fait leur chemin avec des nouvelles voix. Alors, on a aussi un autre spectacle dont je suis très, très contente de pouvoir présenter, c'est Sokald avec son band. Sokald, qui est ce musicien, une figure connue du Milan, là, qui fait la musique klezmer, fait ses compositions, tout ça. C'est un personnage, c'est vraiment quelqu'un qui est très festif sur scène là, avec son band. C'est assez irrésistible. C'est depuis le début du festival que je voulais l'inviter, mais il n'était jamais disponible. Et là, ça va se passer à la Sala Rossa, dans cette charmante salle qui est notre quartier général, qui est un peu ma deuxième maison. Donc, c'est vraiment un lieu que j'aime, là, qui est à la fois, qui est un peu une salle élastique. Là. Alors, nos gros spectacles sold out, on réussit à rentrer beaucoup de monde, mais on peut avoir des spectacles aussi plus intimistes. Là.
Ouais.
Alors, on a ce spectacle-là de Sokald. On a bien sûr notre cabaret Dada, qui va être le spectacle de clôture. Alors, cette année, c'est organisé par Eliane Bonin, qui est une figure assez connue du cirque alternatif, qui avait créé le spectacle Les Érotisseries, qui est présenté à l'Espace Libre il y a 2 ans. Donc, et l'animatrice, ça va être Nathalie Claude, qui est une habituée du festival, qui est une artiste complètement... une comédienne complètement capotée, donc très, très, très effervescente, très, très trash, je dirais. Alors, ça va être toute une soirée. Là. Il y a plusieurs artistes qui viennent des théâtres du corps, en fait. C'est vraiment le cabaret Dada en chair et en os.
Ouais.
Et ensuite, on va avoir comme DJ Julie Delorme, donc ça va être vraiment la fête.
Une belle et soirée en vue.
Oui. Notre cabaret Dada, c'est un must. Les billets partent. Là, je vous dirais, pour le cabaret Dada, attendez pas trop, là, parce que ça part. On a aussi la veille un gala. Alors, c'est notre premier gala, le gala de l'Astro Queer. On travaille avec Mathieu Erard, qui avait fait l'année dernière le cabaret Astro Queer. Ça avait été un succès immense là. Ouais. Donc Mathieu va chercher vraiment des artistes émergents qui viennent de la danse, du burlesque, du crump, de l'opéra. Alors mm-hmm. c'est complètement. Et lui, il anime ce cabaret-là avec Raphaël Rinucci, sa complice. Et les deux là, c'est un duo. C'est eux qui sont sur l'affiche, sur notre magnifique affiche là. C'est eux qu'on peut voir ces deux personnages là. Complètement, eux autres, c'est des danseurs, ils dansent, ils animent, c'est super animé, ils sont drôles, ils sont irrésistibles. Et là, c'est vraiment un gala, donc on demande aux spectateurs, spectatrices de s'habiller en conséquence. On va avoir un tapis rouge, on va faire des photos, donc c'est vraiment la soirée chic. Là. On n'a pas souvent l'occasion.
Ils font presque partie du spectacle, on peut dire.
Absolument, absolument.
Ouais.
On a aussi un autre spectacle qui... avec deux artistes, auteurs-compositeurs autochtones,
okay.
Donc Sandrine oui. Mass et Shawit. C'est des artistes qui, oui, c'est des artistes qui jouent souvent avec leur band, mais là, c'est vraiment, j'avais envie d'avoir quelque chose d'intimiste, donc ils viennent chacun en solo, là, avec leur guitare. Et c'est deux artistes quand même qui ont un parcours important là, dans les dernières années. Alors, il y a cette soirée-là qui va être, je pense, très chaleureuse, mmh. intimiste. Et on a deux soirées de poésie, parce que bon, moi, je viens de la poésie au départ, là, c'était vraiment, je suis issue de la poésie, puis de la poésie performée. Donc, on a à la Soterenea, qui est une petite salle magnifique, Soterenea, ça veut dire souterrain. Donc, c'est une salle qui est au sous-sol de la Sala Rossa, qui est une salle un peu, très underground, en fait. Donc, on va voir le spectacle Les entrailles ouvertes de Mathieu Arsenault, avec Géraldine, qui est une musicienne iconoclaste, et Maude Veilleux, une poète, très bonne performeuse. Donc, c'est mis en scène par Navet Confit. Alors, ça, c'était à la Soterenea. Et on a une autre soirée de poésie organisée par Carl Bessette, qui est le fondateur des défuntes éditions de L'Écrou, donc qui est un poète très important dans la communauté. Et je suis très heureuse parce que bon, on partage un très grand intérêt, lui et moi, pour la poésie surréaliste, pour le mouvement surréaliste. Et quand je lui ai proposé cette soirée-là, il m'a dit, faut que je réfléchisse. Il dit, je te dis oui seulement si je réussis à avoir les poètes significatif pour moi, là, que j'ai vraiment envie qu'il soit sur scène. Et il a réussi.
Bon.
Donc, alors, on a Marjolaine Beauchamp, qui est une performeuse incroyable. Si vous avez jamais vu, vous l'avez sûrement entendu à la radio, on l'entend à Radio-Canada régulièrement maintenant, faire ses textes. C'est vraiment une poète incroyable. Ses textes, ça bouleverse, ça vient chercher droit au cœur. Mais c'est aussi une présence scénique là vraiment remarquable. Il y a aussi Maya Koufounou-Molen, Virginie Beauregard, Rose Elie Seri. Donc ça va être vraiment
une belle soirée.
Vous avez jamais vu une soirée de performance incarnée là avec des poètes qui sont capables de livrer leurs textes. Ça, c'est la soirée pour vous.
Parfait. Et justement, tous les événements que vous me dites là, c'est beaucoup d'événements qui reflètent aussi l'engagement de votre festival, donc au niveau de la diversité, oui, queer, féministe, mais aussi des Premières Nations et même de la communauté sourde.
Oui, mais c'est justement là où je voulais en arriver.
Ouais.
Donc, on travaille avec la communauté sourde depuis 2019. C'est vraiment important pour moi. J'ai développé des liens. On a contribué à la professionnalisation des artistes sourds. Et là, on a plusieurs événements cette année, dont une soirée de performance sourde qui va être présentée à la salle bleue de l'Agora de la danse. Et ça, c'est organisé par Véro Leduc, qui est une femme extraordinaire. Véro Leduc, c'est une artiste sourde, mais c'est aussi une professeure, la première professeure sourde à l'UQAM, qui a créé aussi la chaire de recherche sur la diversité et l'inclusion, qui est une performeuse, donc, et qui est vraiment quelqu'un de très important dans la communauté. Et elle a réuni quatre artistes majeurs. Là, il y a Odan Youssouf, qui est une femme afrodescendante, qui a un parcours incroyable, donc qui va faire sa performance. Kai Glover, qui est un danseur, qui danse entre autres pour Hélène Blackburn, qui est vraiment... lui aussi, qui a toute une carrière. Et Dominique Ireland, qui est une artiste autochtone, une conteuse. Donc ça va être quelque chose, c'est vraiment exceptionnel d'avoir accès à ça parce que ça existe pas. Donc j'ai rarement vu ça. Quatre artistes, là, sourds à l'Agora de la danse. Et il va y avoir des interprètes. Et puis le bar va être ouvert après, les interprètes vont être là. Si vous voulez parler avec les artistes, échanger avec eux, leur poser des questions, c'est vraiment le bon moment. Et c'est pas cher, là, c'est 15 $. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas venir. Et on a aussi une soirée de projection de films réalisés par des personnes sourdes à la Cinémathèque. C'était prévu le 1er octobre. On l'a déplacé le 2 octobre à cause de la grève de la STM. On voulait s'assurer que, justement, les personnes sourdes qui utilisent les transports en commun puissent venir. Ben donc, oui. On a déplacé ça au 2 octobre. Alors, c'est ça aussi, normal. ça va être quelque chose de, c'est très rare et de voir la communauté sourde. Il y a toujours des interprètes qui sont là, de voir cette communauté-là après ça dans la période de questions-réponses après les projections, tu sais, de voir, d'avoir accès à cette communauté-là, c'est assez exceptionnel. Donc, si on a une soirée, un après-midi de conte à la Maison de la Culture sur Plateau Mont-Royal, alors c'est gratuit, il faut aller chercher les laissez-passer, organisé par Marie-Pierre Petit, avec qui on travaille aussi depuis plusieurs années.
Donc ça, vous avez parlé justement de cette dernière soirée qui est gratuite. Un peu plus tôt, vous avez mentionné une autre soirée qui était à 15 $. Et les communiqués de presse de, justement, le Festival Féminomena mentionnent des prix très doux pour votre dernière année aussi.
Ben, ça a toujours été des prix doux. Oui. Moi, j'ai toujours gardé ça. Tu sais, les spectacles, c'est en général, c'est 17 $, 20 $, tout frais compris, là. Mm-hmm. C'est quelque chose de super important pour moi. Même notre spectacle à l'UNC, j'ai une entente avec l'UNC, le spectacle était 30 $, tout frais inclus. Donc, ça, pour moi, c'est important. Je veux que les gens prennent le risque aussi de venir voir quelque chose qu'ils n'iraient pas voir autrement, là, qu'ils connaissent pas. Donc, de venir découvrir des nouvelles voies, des nouvelles façons de faire aussi. Mmh. Alors, on est très inclusif. On est très accueillant aussi. La salle à Rosa, c'est une petite salle. Moi, je suis tout le temps là. C'est moi qui dis en haut des toilettes, là. Donc, et ça va être l'occasion de rencontrer la nouvelle direction qui est emparée. Donc, oui. Qui va prendre la relève après le festival. Moi, je vais être encore là pour un bon 2-3 ans parce que je vais écrire un livre sur l'histoire des filles électriques, la compagnie qui existe depuis 23 ans. Puis sur le festival Voix d'Amérique qu'on a fait, le festival Phénoména. Donc, je veux vraiment qu'on garde des traces de cette histoire-là, de tous ces artistes-là inclassables là, qui sont passés chez nous. Donc, et je vais aussi faire le ménage de nos archives photos parce qu'on a des millions de photos.
Oui,
il y a
oui,
à peu près
j'imagine.
Juste moi qui sais qui est dessus. Là. Donc, je vais laisser la maison en ordre.
Super. Donc, justement, ça arrive à la fin, malheureusement, du temps qu'on a à passer avec vous. Pour finir, avez-vous juste un dernier petit commentaire sur vos projets, en fait, pour le Festival Phénoména? Qu'est-ce que vous souhaitez pour le festival dans le futur?
Ah, mais que le festival continue de se développer avec une nouvelle vision. Mais bon, je suis j'ai beaucoup de connivence avec Gaétan, la nouvelle direction. C'est pas pour rien qu'on l'a engagé. Donc, il connaît l'ADN du festival. On partage les mêmes valeurs. Mais lui, il a aussi des nouvelles idées. Il a un très bon réseau à l'international. Donc, c'est certain qu'on va ouvrir à l'international encore plus.
Parfait,
alors, c'est
parfait.
Très enthousiasmant.
Super. Merci beaucoup, Kim. Rappelons que le Festival Phénoména sera du 1er au 24 octobre 2025. Pour plus d'informations, on peut aller sur le site. Donc, merci.
Le site est très complet parce qu'on a les photos et bio de tous les artistes. Donc, ça, c'est chouette.
C'est super.
Allez voir ça.
Parfait.
Nous démoniant, mon jet chez Guane Wapden, mon jet chez Guane Beden, n'a manoade ne Wadman, Eka et Pegusian, Wani Gandeyan, mon jet chez Guane Mishkadenden, je peux chaud des pianches, que mon yan, tant de maït, je bâtis la gwen, je chinches couquen, mag Mishkabet man, et Mishkadun Mataway in the moonan, hey. Qui a-t-il dans cette île? Qui a-t-il dans cette ville? Une ouverture d'esprit et le rêve d'une meilleure vie. Pour certains, c'est chill, pour d'autres, c'est plus difficile. Mais malgré les soucis, l'espoir nous sourit. L'espoir d'un meilleur avenir, l'espoir de nous voir grandir. Hey, hey, hey.
United strangers float together on an island. Your land and my land. This land was made for you and me, paid for, stolen and lied for, laughed at and cried for. Hey, look what we died for. An island in a dream, a mountain on a river, a meeting point, a safe place, I land to deliver. We went from trappers to rappers, from logging to blogging, triumphant disasters. Hey, what's the story of this mountain on an island, surrounded by a river, just a little taste of dry land? Your land, my land, why don't we share land? Couldn't care land, a bare land, beavers and a hair land. You gotta listen to hear it, you just don't understand, and maybe that's why you fear it. Birds of a feather make your Makusham come, all in this together and we'll make your ensemble. Makusham, Montréal.
C'était Makusham MTL de So Called featuring Shawit. Et donc, on retourne avec Thaïs pour une autre entrevue.
La 11e édition des Journées de la paix se tient depuis hier jusqu'au 2 octobre 2025. Pour nous en parler, nous recevons Brian Brofman, président et cofondateur du réseau Pour la paix et l'harmonie sociale. Merci d'être avec nous, Monsieur Brofman.
Merci de m'accueillir et bon matin.
En quoi consistent les Journées de la paix?
Les Journées de la paix consistent en effet de 92 activités cette année à la 11e édition qui sont organisées par 110 partenaires d'implantation. Alors, on a une variété incroyable et très, très riche d'activités qui sont disponibles pour le public, pour n'importe qui s'intéresse là-dedans. Il y a des activités pour les familles, pour les enfants, pour les intellectuels. Il y a des choses qui sont plus académiques. Il y a des choses virtuelles, présentielles. Il y a aussi même des ressources sur notre site web. Il y a plein pour tout le monde.
OK, super beau ça. Donc, la 11e édition des Journées de la paix a pour thème « Bâtir l'avenir, s'unir pour la paix ». Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce thème est si important en ce moment précis?
On a fait beaucoup de réflexions sur les thématiques de cette année. Et on va le réutiliser l'année prochaine, en effet, parce qu'on trouve que c'est tellement pertinent. Les thématiques reflètent vraiment nos idées, nos engagements, nos objectifs de base. Un objectif, c'est vraiment bâtir la paix. Et l'utilisation de l'idée de bâtir, c'est quelque chose de très pratique, de concret. On ne veut pas On ne veut pas juste rêver de la paix, on veut pas juste... on veut discuter, mais on veut être engagé en action et on veut participer autant que possible. Et tout ça, c'est vraiment bâtir, c'est un mot d'action. Et s'unir, c'est une réflexion du fait que au réseau pour la paix, et vraiment dans la création de la paix en général, il faut que tout le monde s'unisse. On a besoin d'une solidarité. Il faut que les gens, n'importe, et ça inclut les gens de n'importe quel angle, en effet, comme si vous êtes politiquement du gauche, de la droite, n'importe quelle culture ou religion, j'espère que vous appréciez l'importance de la paix dans le bien-être de notre société, de nos communautés. Et on peut voir dans le monde, il y a tellement de sociétés, de nations, etc., qui vivent sans la paix, et on voit l'effet. Donc, on veut que les gens unissent pour assurer qu'ici, au moins, avec cet engagement, on peut vivre en paix.
Alors, comment le réseau pour la paix et l'harmonie sociale parvient-il à mobiliser un si grand nombre d'organisations issues de divers secteurs pour un événement comme la Journée de la paix?
On existe depuis 2009. Mm-hmm. Et on est, disons, actif avec des projets. Il y a les Journées de la paix, il y a d'autres projets aussi, comme j'ai mentionné, tout autour de la collaboration. Donc, on est actif depuis 2014. Et durant ces, dépendant comment, les 16 ou 11 ans, on a vraiment créé beaucoup de relations avec un très grand nombre d'organismes de terrain, d'institutions montréalais. Il y a dans différents secteurs, il y a des chercheurs académiques, dans les secteurs de l'académique, religion, n'importe quoi. On travaille avec tout le monde qui veut s'impliquer pour la paix, et particulièrement des communautés qui sont plus marginalisées. On travaille avec... je ne peux pas tous les nommer, mais avec les communautés, disons, musulmans, juifs, chrétiens, autochtones, queer, LGBTQ+, asiatiques, on est fiers et ça nous donne beaucoup de satisfaction et de joie de travailler avec ces gens-là pour qu'ils soient mieux respectés et accueillis et inclus dans cette société. Et particulièrement, même plus spécifique, moi je trouve que pour avoir une société trouve son potentiel, il faut que chaque personne dans cette société ait l'opportunité de trouver son potentiel aussi. Mm-hmm. Donc on fait tout ce qu'on peut grâce à la force de la collaboration. Pour aider toutes ces communautés à, comme j'ai dit, avoir, je ne sais pas le mot en français, to achieve. De toucher ou accueillir.
Arriver
à son plein potentiel. Oui, c'est ça, arriver à son plein potentiel.
Alors, parlons de la programmation qui couvre des sujets comme l'immigration, la justice sociale, mm-hmm. l'interculturalité ouais. et la prévention des actes haineux. Comment choisissez-vous les initiatives qui sont incluses?
Well, notre équipe fait un travail pour chercher qu'est-ce qui va avoir lieu durant les 12 jours entre le 21 septembre, qui est la Journée internationale de la paix, et le 2 octobre, qui est la Journée internationale de la non-violence. Mm. Donc, particulièrement, Jimmy Latou Bellem, qui est membre de l'équipe un peu en charge de cet effort-là. Il travaille autour de la prévention de la violence et promotion de la paix dans notre équipe. Elle a, c'est pas une touche magique pour trouver beaucoup d'initiatives et vraiment faire le lien avec beaucoup d'organismes de terrain et d'institutions, comme j'ai nommé. Donc, quand on voit des activités qui ont l'air pertinentes et qui sont offertes par des organismes qui sont crédibles, ou c'est quelque chose de réel, parce que parfois dans la paix, il y a des gens qui sont un peu moins sérieux, mais on cherche ce qui est sérieux, qu'est-ce qui va avoir un vrai impact. Et ça peut être quelque chose de plus artistique ou quoi, et ça peut être quelque chose d'académique, mais on veut de grands partenaires. Mais aussi, je pense, parce que c'est la 11e édition, oui. On trouve de plus en plus que même si on ne fait pas ces recherches, il y a beaucoup de gens qui veulent s'impliquer dans les journées de la paix, sans même quand on fait ces recherches, qu'ils nous approchent. Parce qu'une autre chose des journées de la paix que moi j'apprécie de plus en plus, c'est le fait que, oui, on offre des possibilités pour le public de s'impliquer dans la paix, d'apprendre et toutes sortes de choses, être informé, inspiré, trouver des outils pertinents. Mais pour les parties prenantes dans la paix, tous ces organismes, ces 110 organismes, eux, ils ont beaucoup de satisfaction, ils ont une inspiration d'être partie de quelque chose de plus grand. Où le travail qu'ils font, et tout le monde travaille tellement fort, et moi j'apprécie ça. Mais ils font typiquement ça à l'ombre, un peu solo, parce qu'ils n'ont pas le moyen à faire toute cette sorte de collaboration, ces efforts collaboratifs. Alors nous, on donne cette possibilité d'être une partie de quelque chose de plus grand, et les gens veulent être une partie de ça.
Donc parlons un peu de vous. Monsieur Brofman, vous avez été nommé à l'Ordre du Canada et à l'Ordre national du Québec, en plus d'avoir reçu la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II et le prix du mérite de l'Institut canadien pour la résolution des conflits. Vous consacrez 100% de votre temps à des activités philanthropiques. Qu'est-ce qui vous motive à donner autant?
Moi, je reconnais mon privilège, premièrement. Parce que, par chance, complètement par chance, je suis dans une position où je peux laisser comme les aspects financiers de ma vie juste se régler un peu par eux-mêmes. Moi, je surveille ça un peu, mais c'est une toute petite partie de ma vie. La grande, grande majorité de ma vie, c'est autour de ça. Moi, je donne mon temps. Je ne gagne jamais un sou pour ça. Et ce que je gagne, c'est une grande satisfaction en sachant ou en espérant, mais peut-être sachant, qu'avec ces efforts et avec la création du Réseau pour la paix, et aussi peu les dons de ma fondation philanthropique aussi, mais particulièrement avec les efforts, les projets du Réseau pour la paix, je suis capable d'avoir cet impact et faire une différence et peut-être aider la société pour vivre plus en paix. Et comme j'ai dit avant, c'est absolument, la paix, c'est fondamental pour le bien-être de nos sociétés. Je dirais, quand j'ai commencé en 2009, c'était un peu pris par acquis. Bon, les gens ne pensaient pas tellement à la paix, mais malheureusement, en effet, maintenant, quand je parle de la paix et on fait nos travaux, le monde a tellement de problèmes que c'est plus évident pourquoi, c'est beaucoup plus évident pourquoi on s'engage là-dedans.
Et pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous avez un message à leur passer?
Mon premier message très pratique, c'est d'aller au site web des Journées de la paix, oui, pour voir quelles sont les 92 activités qui sont offertes. Alors c'est journeesdelapaix.com. C'est journée avec un S, parce que comme j'ai dit, c'est...
Les journées.
Oui, c'est les journées, c'est deux jours, mais c'est journeelapaix.com. Un message à part de ça, joignez-nous. Comme j'ai dit, on ne s'engage pas dans les aspects politiques ou quoi. On est axé sur les solutions. Et c'est l'engagement de tous nos partenaires, tous nos alliés. C'est avec ça qu'on est capable de faire une différence. Donc, on est ouvert à la collaboration avec tout le monde qui a un bon cœur, qui croit dans les relations saines comme base de la paix. On sera content de travailler avec vous.
Merci beaucoup, Monsieur Brofman. Les Journées de la paix se déroulent depuis hier jusqu'au 2 octobre 2025, soit de la Journée internationale de la paix à la Journée internationale de la non-violence. Pour consulter la programmation complète, les gens peuvent se rendre sur le site du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. Merci.
Merci à vous.
d'amour, les plaies qui arrêtent pas de saigner. Les maringouins, les mouches noires, les araignées. Faut vivre avec.
c'était La paix dans le monde de Fred Fortin. Au micro, on avait Adèle Rosamat, moi-même et Thaïs Plamblat. Et on remercie Maurice Bolduc à la mise en onde. À demain, en fait. Bonne journée.
Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc. J'anime Fleur Bleue, l'émission qui vous fait voyager à travers les fleurons de la chanson québécoise des années 70. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis 15h à CIBL 101.5 FM, Montréal.
Le quatrième mur.
Bon, Siri, c'est quoi, mettons, là, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h?
Le quatrième mur.
Libraire de force!
Tout sur la littérature.
Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer.
Et ça va générer chez lui une réelle angoisse.
Une série nouvelle qui s'appelle Le Projet P.
Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres.
Libraire!
Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi midi. CIBL, au cœur de la littérature.
Cœur de la culture.
L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
Semaine, on parle du ressac de la mort de Charlie Kirk.